table qui est tout au fond. Oui, la parole est à vous. J'ai vu une main se lever tout à l'heure. Oui, ben voilà.
Quel est l'intérêt pour les pays d'être paradis fiscaux si ça ne donne pas de travail, ça n'emploie pas de personnes?
Il y a quelques pays où on peut dire que la transformation de la législation en paradis fiscal a été bénéfique. Je pense historiquement au Luxembourg. Au Canada, on pourra toujours dire que c'est pas mal pour l'hôtellerie, pour l'immobilier, qu'on concentre des sièges sociaux d'entreprises minières à Toronto, même si c'est pour héberger une secrétaire, un comptable, puis deux géologues, alors que l'essentiel se passe ailleurs. D'une manière plus générale, ce qu'on constate, c'est que les États qui se transforment en paradis fiscaux souffrent de la situation. Évidemment, quand une législation se transforme en paradis fiscal, c'est toujours au bénéfice des autres. Alors, il y a deux problèmes par rapport à une législation. C'est est-ce qu'elle se transforme en paradis fiscal pour attirer des capitaux aisément? Et d'une part, est-ce qu'elle donne facilement accès à ses propres acteurs financiers et industriels aux paradis fiscaux étrangers pour qu'ils contournent les règles fiscales en vigueur chez elles? Bon, c'est les deux questions qui se posent. Et très souvent... Quand une législation se transforme en paradis fiscal et cherche à attirer des capitaux sur un mode complaisant, ce sont les populations qui paient le prix autrement. Par exemple, dans la Caraïbe ou dans les îles de la Manche, anglo-normande, très souvent, les droits de douane sont majorés et remplacent les impôts que ne paient pas les entreprises privées qui déboulent. Et évidemment, il s'agit de populations insulaires qui consomment énormément de biens de première nécessité sur la base de l'importation. Ce sont elles qui paient le prix. Et ce qui est très clair, on est face à... Moi, la conclusion, là, s'il y avait eu une phrase que je dirais pour résumer tout le problème, c'est que les peuples doivent réapprendre à se donner des institutions qui leur ressemblent. Parce que le portrait général qu'on tire de tout ça, c'est qu'on est face à une oligarchie. Il y a des États qui ne rendent plus compte, à des populations, mais qui sont plutôt liés intimement à la finance et à l'industrie. Et ce qu'on l'a aussi, il y a à trouver une cohérence dans les décisions publiques. On la trouve strictement par rapport aux intérêts du grand capital, c'est-à-dire la finance et l'industrie. Et il y a quelque chose qui... le symptomatise très bien, c'est ce qu'on appelle en France le pantouflage, et qu'on appelle chez nous les portes tournantes. C'est-à-dire le fait qu'on a un ancien premier ministre qui, au terme de sa carrière politique, devient membre du Conseil consultatif international de Barrick Gold, je pense à Brian Mulroney, et qui travaille pour une société minière, tout en travaillant un petit peu ensuite pour un empire de presse, tout en étant, je pense à un autre premier ministre qui travaille aussi pour une société minière, en tant que premier ministre, parfois il supervise des élections dans un pays où il est aussi le représentant de la société minière, qui a des actifs là-bas, et après ça, on va le voir conseiller le ministre sur des questions fiscales. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un ordre qui se dessine à l'échelle internationale qui n'a plus rien à voir avec les peuples. Quand on en est en Europe à se dire que l'ancien premier ministre Juncker du Luxembourg sera représentatif des activités politiques de tout le continent, on voit très bien quel est le degré de déconnexion dans lequel on s'engage, dans lequel on se trouve. Donc je dirais que la question appelle tout de suite comme premier élément de réponse que il n'y a plus à se fier aux logiques formelles de la politique pour essayer de comprendre la raison pour laquelle des législations offshorisent des secteurs entiers de leur cadre. C'est pas par rapport à des logiques formelles, mais à des logiques sociologiques qu'on pourra comprendre les motivations.
François?
Oui, le Canada et l'Europe sont sur le point de conclure un accord. Donc, qu'est-ce que ça va être? Ça va être entre coquins, on va avoir une législation encore pire.
Oui, l'accord est signé, en fait, entre le Canada et l'Union européenne. La négociation a trait avec les États-Unis maintenant. Et pour ceux qui suivent le dossier... Évidemment, le cas canadien peut servir d'exemple... indicateur de ce qui s'annonce. Chez nous, c'est évidemment, vous le connaissez sûrement ici, c'est Claude Vaillancourt qui est donc versé dans ce dossier-là, là, des accords commerciaux. Il reste que ce qui est terrifiant, du coup, on fait d'accord commercial en accord commercial, d'accord de libre-échange en accord de libre-échange, on se retrouve à consolider toujours plus cette idée que la souveraineté de l'État se corrode au profit d'un acteur souverain qui apparaît dans l'histoire sur un mode normatif et formel, qui est l'acteur privé. Et si on veut comprendre l'évolution de cet ordre politique-là, on peut le voir donc, symptomatisé par des changements de mots, là aussi, pour définir la politique globale, à savoir qu'on parle de moins en moins de politique et de plus en plus de gouvernance. Et la gouvernance, qu'est-ce que c'est? La gouvernance, c'est l'application des modalités de gestion d'une firme privée aux logiques globales de la vie collective. C'est-à-dire qu'on réduit la vie collective à des logiques qui, normalement, prévalent strictement dans la sphère organisationnelle privée. Le partenariat, les intérêts privés, la collaboration sur la base des intérêts, ainsi de suite, le consensus, ainsi de suite. Tous ces termes-là qui prévalaient jusqu'à Margaret Thatcher, essentiellement dans le domaine privé, est devenu global maintenant. Et les accords de libre-échange... prévoit que des organisations privées pourront directement poursuivre les États si ils entravent le libre cours du commerce. Donc si du point de vue de la santé publique ou du point de vue de l'aménagement du territoire ou du point de vue de la culture, des gouvernements auraient de bonnes raisons de penser qu'un projet X ou Y ne peut pas avoir lieu, l'État devra compenser la firme qui est brimée par les décisions politiques dans sa possibilité sacro-sainte de faire des affaires. Et donc on en est là entre le Canada et l'Europe. Et il est entendu que l'Europe est une machine de guerre en ce qui concerne la libéralisation et l'ultra-libéralisation du rapport au monde. Donc c'est dire quand on considère qu'il y a presque autant de lobbyistes qu'il y a de fonctionnaires à Bruxelles, il y a lieu d'être inquiet.
C'est signé entre le Canada et...
C'est pas voté, mais c'est signé. Alors maintenant, l'accord est signé entre représentants dûment mandatés par les États. Et quand je dis les États, c'est l'Union européenne et les États qui sont membres de l'Union européenne. Et ce sont le gouvernement fédéral et les provinces qui sont représentés dans le processus. Donc tout le monde s'est entendu. Maintenant, la chose doit être avalisée dans les assemblées nationales et législatives.
Daniel?
Oui, alors, que peut-on faire?
Vraiment?
C'est pas...
Ah, voilà.
Ben, disons que j'exclus d'office le suicide collectif.
Ah, oui.
Mais, bizarrement, c'est... Deux choses, je dirais. Je vais paraphraser Lénine, là, être adulte politiquement. Il relève la maladie infantile, disons, de la politique, de penser qu'on va trouver une solution rapide. Être adulte politiquement, c'est se dire qu'on s'attaque à plus grand que soi, et c'est pour ça qu'on fait de la politique. On fait de la politique parce que les problèmes nous excèdent. Sinon, on n'en ferait pas. Et s'il s'agissait de lutter ici contre le cannibalisme dans le 15e arrondissement, bon, déjà, on peut déboucher les bouteilles parce que c'est le grand soir, parce qu'il n'y en a pas, puis on a gagné, puis c'est la victoire. Bon. D'accord, on fait de la politique quand on est confronté à des problèmes dont on n'entrevoit même pas la solution. Et c'est pour ça qu'on se mobilise. Donc, à mon sens, c'est stimulant. Et ce qui est intéressant par rapport aux paradis fiscaux, du point de vue rhétorique, hein, c'est que pour ceux qui militent, c'est une aubaine. Et je dirais pas du tout la même chose des accords de libre-échange. Parce que quand on est confronté aux apôtres du libre-échange, ils auront toujours des arguments apparemment rationnels qui sont dignes de mention, à savoir création d'emplois, compétitivité, bon voilà, des vertus même, la paix, bon, je dirais, tout ce qu'on peut mettre pour dévendre un accord de libre-échange, c'est absolument incroyable. Mais il reste que rhétoriquement, ça passe. On a du fil à retordre, quoi. Quand on nous donne du fil à retordre, quand on est sur le plan de ce débat-là. Pour les paradis fiscaux, on parle d'autre chose, c'est-à-dire que les paradis fiscaux sont injustifiables. Structurellement, substantiellement, ils existent pour nuire à l'État de droit, pour s'opposer à lui, pour le gêner, pour le rendre inopérant. Et on ne peut pas fondamentalement justifier les paradis fiscaux, et quiconque s'y essaie se discrédite. Il est très difficile pour D'ailleurs, même quelqu'un comme Juncker va jurer que le Luxembourg n'est pas un paradis fiscal. Il ne s'agira surtout pas de dire qu'il en est, alors que c'est le paradis fiscal où Parmalat a mené ses opérations qui ont mené à sa faillite retentissante. C'est le pays où Bernard Madoff a développé tout son secteur européen d'opérations. C'est un pays hautement problématique par rapport à énormément de filières. Mais on ne peut pas justifier les paradis fiscaux, alors je dirais qu'on marque des avancées dès lors qu'on parle des paradis fiscaux. Et moi, je milite dans le temps long de l'histoire pour que, dans une première étape, à court terme, on s'habitue à parler des paradis fiscaux de manière transversale. Je souhaite, moi, personnellement, saborder mon rôle et faire en sorte qu'il n'y ait plus à parler des paradis fiscaux sur une base thématique isolée, mais qu'on parle des paradis fiscaux quant à tout problème social. Hein, c'est-à-dire que les artistes, les gens qui croient à l'aménagement du territoire, à l'économie locale, à la santé publique, à l'éducation, à la recherche, à la solidarité internationale, inscrivent la question des paradis fiscaux dans leur plateforme de revendication, dans leur réflexion, parce qu'à chaque fois que l'État se montre incapable de soutenir des groupes ou des projets qui nécessitent son soutien, à chaque fois que le bien public n'est pas, que l'institution visant à développer le bien public n'est pas au rendez-vous pour des questions cruciales, on peut se dire que c'est parce qu'il y a les paradis fiscaux. Je veux dire, si on n'arrive pas à se faire soigner, si on n'arrive pas à avoir un filet social digne de ce nom, si on n'arrive pas à avoir une vie publique digne, c'est parce qu'il y a toujours les paradis fiscaux qui sont à l'œuvre dans un secteur ou un autre. On peut parler du transport maritime, du travail. Et il faudrait que les syndicats, par exemple, inscrivent la lutte aux paradis fiscaux même dans la négociation des conventions collectives, même si parfois, formellement, ça peut avoir l'air un peu fou d'un point de vue juridique. Mais soyons-le, quoi. Et je pense qu'à partir du moment où on inscrira cette question-là tout le temps, partout, elle deviendra suffisamment gênante pour que, d'une manière ou d'une autre, on marque des avancées sans qu'elle soit directement prévisible ici. Et je parle ainsi parce que c'est plutôt ma sphère, là, mon régime de pensée. Ça n'exclut pas aussi des propositions très concrètes, très terre-à-terre, comme on va le faire parfois, c'est-à-dire, par exemple, la divulgation d'actifs pays par pays, l'imposition sur une base consolidée plutôt que entité par entité, filiale par filiale, le devenir public des chambres de compensation comme Clearstream ou Euroclear, des mesures comme rendre illégal un transfert de fonds dont on ne connaît pas l'origine ou la destination, ainsi de suite. Il y aurait énormément de mesures très concrètes qu'on peut appliquer, mais le problème, c'est que lutter contre les paradis fiscaux, c'est facile, ça prend 5 minutes. Donc, on rature les pays qui ont des paradis, on les a créés, on peut les défaire. Le problème, c'est d'instaurer un rapport de force sociale et politique qui amène les décideurs à décider d'une manière favorable à l'avancée de la cause commune.
Frédéric, si j'ai bonne mémoire, c'est une personne derrière vous.
Je rentre d'un travail au Cambodge où j'avais été en visite par l'administration française pour qu'il n'y ait pas d'accident, mais surtout pas d'Airbus, bâtiment d'Airbus au Cambodge. Votre exposé m'a expliqué pourquoi le seul grand immeuble exploité au Cambodge, c'est la Canadian Bank, puisque le Cambodge n'a pas de législation fiscale presque pas, et que le dollar y a été instauré par l'ONU après la chute des Khmers Rouges. Enfin, l'ONU, les Cambodgiens disent les Américains. Alors je voulais savoir si les deux autres grandes puissances du Commonwealth, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ont une politique aussi efficace que ce que vous venez de décrire du Canada. Ils ont la même attitude.
Je dirais que la Nouvelle-Zélande, sûrement pas, à ma connaissance. L'Australie rêverait de jouer le rôle que le Canada joue sur un plan mini, mais n'y est tout simplement pas parvenu.
Le ministre est tombé sur une tentative de clarification du code mini en Australie.
Oui, c'est sûr que du point de vue de l'exploitation, moi, ce qui m'intéressait par rapport à la question minière, c'est vraiment la question offshore, là, c'est-à-dire comment un pays aménage la législation pour permettre à des acteurs étrangers d'inscrire leurs opérations pour œuvrer à l'étranger. Bon, pourquoi, par exemple, la Katanga Mining, qui est gérée par des Belges, est créée à Toronto pour exploiter au Katanga. C'est ça qui m'intéresse. Alors qu'en Australie, on n'est pas face à des cas de figure comme ça. Au contraire, c'est des Australiens qui vont créer des filiales à Toronto pour exploiter des mines ailleurs, quoi. Bon, ou parfois à Londres, quand il s'agit d'enjeux strictement financiers, mais essentiellement à Toronto. Donc, bien sûr qu'il s'agit de législation très, très permissive en ce qui concerne l'exploitation du territoire sur place. Il n'y a pas de loi contraignante sur l'aménagement du territoire, loin s'en faut. Mais Mais en ce qui concerne, oui, dire le caractère complaisant, là, c'est plutôt le Canada qui tire son épingle du jeu, parce qu'il a été finalement à la fois une colonie. On exploite au Canada le pétrole, les céréales, l'eau, le gaz de schiste, le sable bitumineux, allègrement. C'est vraiment une colonie. Et en même temps, c'est une législation impérialiste qui est un état de droit qui permet à des acteurs étrangers de profiter d'entités vraiment permissives pour avoir cette espèce d'abri légal lorsqu'on agit à l'extérieur.
J'avais une deuxième question sur General Electric. Allez-y. J'ai vu dans le dossier General Electric que Alstom, que bizarrement, les États-Unis continuaient à faire de la double imposition. C'est-à-dire que les bénéfices qui sont faits par General Electric en Europe, s'ils retournent aux États-Unis, ils sont fiscalisés. Est-ce que le futur accord avec les États-Unis, vous avez parlé d'accord avec le Canada, mais le futur accord entre la communauté européenne et les USA vont permettre de tourner ça ou est-ce que General Electric utilisera sa filiale canadienne, par exemple?
Oui, je pense que de toute façon, on sait comment contourner ce type de contrainte. Mais d'une part, je ne connais pas assez le dossier, mais d'autre part, j'y verrais pas un problème parce que c'est dans ces cas-là où les accords de non-double imposition sont censés. Alors, on peut comprendre qu'un capital ne soit pas imposé deux fois quand il n'a pas évolué. Mais,
cette loi américaine résulte du plan Marshall, la date du plan Marshall. Et le président Obama est sous une pression pas possible pour la.
Ouais. Mais je préférerais qu'on abroge le statut du Delaware, qui est un paradis fiscal à l'intérieur même des États-Unis, qui permet à l'intérieur même des États-Unis aux entreprises de pratiquer l'évitement fiscal entre États. Ça, c'est... Et là, je pense qu'il y aurait une opposition beaucoup plus grande.
Roger, je vais demander la parole. Non, mais alors, oui.
Le problème que vous avez soulevé, il met en cause la législation, le mode de législation occidentale, à proprement parler, et la démocratie. Je veux dire, puisqu'en fait, on produit, il y a un mélange aujourd'hui de représentations démocratico-capitalisto-paradisiaques, qui fait qu'on a des législations qui sont reconnues, comme la France, par exemple, démocratiques, et puis on a les mêmes législations qui font la paix du monde avec donc tout ce que vous avez raconté. Donc pour moi, le problème est tout ça, donc pardon, c'est entre les mains de 3% de la population mondiale qui met à profit 10% des gens les plus câblés, bien rémunérés pour mettre en place tout ça. Ces gens-là sont convaincus de leurs intérêts, et pas les autres. Mais donc, il y a un rapport de force et qui ne va pas s'arrêter avec, l'abolition du Luxembourg. Et je pense que c'est de travailler sur un tout petit sujet. Le problème, vous parliez du climat à côté, et moi je travaille sur d'autres choses, on pourra en parler après, mais... Je crois que le changement, il est un changement de paradigme, de conception du monde, de l'humanité. Et qu'on peut travailler sur le climat, sur, je ne sais pas, les paradis fiscaux, les machins, etc. Mais en fait, on travaille toujours en face d'un système qui est complètement à modifier. Qui est à modifier. Alors, comment s'y prendre? Voilà. Et j'ai quelques idées là-dessus, mais je pense que... De toute façon, ce n'est pas avec les mêmes armes. Tant qu'on combat avec des armes qui sont législatives, qui sont, je dirais, de nature démocratique, on a perdu. Puisque, en fait, ils sont beaucoup plus armés.
Moi, j'ai de la difficulté à qualifier de démocratique, en fait, les modèles face auxquels on est. La démocratie, non, je suis plus près. Mais je comprends, je sais que vous utilisez des guillemets. J'entends que c'est pour reprendre l'expression dont on s'affuble. Mais voilà, la démocratie, c'est le la prémisse de la démocratie, c'est que les intelligences sont données en partage et qu'on est tous aptes à réfléchir à la chose commune indépendamment de son titre et de sa fonction. Bon, ça, c'est un peu, comme dit Jacques Rancière, il y a plus de gens qui haïssent la démocratie que de gens qui l'épousent malgré les prétentions. Mais c'est vrai qu'on est face à un problème très net, à savoir que les législations n'arrivent plus à faire valoir le principe des droits et des devoirs en tant qu'ils s'appliquent équitablement pour tous. Et en tant que c'est dans le cadre législatif qu'on peut faire évoluer les choses. Ce qui a quand même été souvent le cas au XXe siècle, même si c'était jamais parfait. Ce que je veux dire, c'est que le débat politique avait lieu quant à la décision publique que prenait un souverain qui était attitré par la Constitution, qui était, je veux dire, qui était dépositaire de la décision en vertu de la Constitution qui fasse que, tout d'un coup, on abolit la peine de mort ou on ne l'abolit pas. Quoi.
C'est-à-dire, il y a un rapport de force et une inversion, je dirais, jusqu'à, je sais pas, dans les années 60, je dirais, le pouvoir politique était maître du pouvoir économique encore.
C'est qu'en fait, aujourd'hui, on a mis en concurrence la cause, notamment des euromarchés et de la concentration de la moitié des fonds mondiaux dans les paradis fiscaux. On a concentré un pouvoir d'action extrêmement grand entre les mains d'acteurs qui ne répondent plus d'aucun cadre législatif. Et ça, c'est une autre tournure lexicale sur laquelle je voulais revenir, puis je vais vous m'en donner la chance. Le problème des paradis fiscaux également, c'est qu'on en parle toujours en termes négatifs. On va parler d'évasion, d'évitement, de fuite, d'ailleurs, d'exode. C'est toujours des mots qui donnent à entendre qu'on prend quelque chose dans un endroit et qu'on le dissimule ailleurs.
Dans un endroit qui est parfait par rapport à un endroit
d'aboutissement. Oui, puis dans un endroit où il trouve son point d'aboutissement, comme si ces fonds-là échouaient. Hein, comme un navire, là. Ou comme si c'était un butin qu'on allait cacher dans le sable à l'époque des pirates. Alors que dans les paradis fiscaux, on mène des opérations, on gère des opérations, on signe des filiales d'entreprises. Le partenaire commercial le plus important de la Chine, c'est les îles Vierges britanniques. Donc c'est pour dire que le pays à partir duquel on investit le plus en Europe, c'est le Luxembourg. C'est-à-dire qu'à partir d'entités inscrites dans les paradis fiscaux, on en vient à mener des opérations, à corrompre des dictatures, à mobiliser des mercenaires, à pratiquer le trafic d'armes, à métisser les fonds de la drogue, des armes et d'activités illicites. On fait tout ce que l'on veut sur un mode souverain, de manière à peser sur l'évolution historique, quoi, sans avoir du tout à se référer au cadre national. Au contraire, le cadre national, on le possède, parce que c'est depuis les opérations offshore qu'on finance les caisses noires des partis politiques ou les campagnes électorales, et ainsi de suite. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, je suis d'accord avec vous, on est en crise. Tout simplement parce qu'il n'y a qu'à voir le président ou celui qui fait office de président ici. On voit très bien qu'il n'y a plus personne qui décide. Qui est capable d'une position décisive. Quoi. C'est très, très net là, qu'on est dans une sorte de régime impuissant à décider. Et aujourd'hui, la souveraineté d'État, elle s'applique sur des toutes petites choses. Genre, est-ce qu'on a le droit de fumer dans les lieux publics ou pas? Est-ce qu'on tourne à droite au feu rouge? Bon, c'est-à-dire, c'est beaucoup de ce point de vue-là que l'État peut encore décider. Mais pour le reste, on sent bien que les décisions sont prises ailleurs. Et comme disait le constitutionnaliste Carl Schmitt, hormis toute sa réputation sulfureuse pour ses engagements historiques condamnables, là, il reste que sa théorie disait bien que le souverain, c'est pas nécessairement l'acteur qui est encadré par la Constitution. On peut être souverain et ne pas être encadré par une institution, mais à ce moment-là, c'est une sorte de souveraineté sauvage qui est à l'œuvre. Et c'est l'époque dans laquelle on est. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut réapprendre à se donner des institutions qui nous ressemblent, nous, peuple. Et ça, c'est un travail qui se va se faire sur des décennies. Quoi. Mais il faut le voir pour venir.
Oui, justement, ça peut même parler d'institutions. Beaucoup d'institutions veulent dire qu'on va parler de fiscaux, GEVAR, OCDE, etc. Qu'en pensez-vous? C'est de la frise?
Oui, c'est
vrai, l'agent devrait pouvoir.
C'est assez drôle, mais on pourrait en faire une comédie ou une tragicomédie, mais il reste qu'il y a un fondement à ça. C'est-à-dire que les paradis fiscaux, les législations de complaisance n'étaient pas destinées à être autant utilisées et d'une manière aussi intense. Évidemment, dans l'histoire qu'on fait, l'histoire des techniques, on se rend compte qu'on ne mesure jamais l'ampleur que prendront un certain nombre de dispositifs. Il suffit de lire un peu des sociologues sur la technique. On ne savait pas dans les années 60 que l'informatique viendrait, qu'on échangerait des titres en nanosecondes dans quelques décennies. Alors on se retrouve par rapport à un modèle qui est hors de tout contrôle, mais qui déborde complètement même le pouvoir régalier des États. Alors qu'avant, si je comprends bien, là, pour avoir fait un petit peu cette histoire des paradis fiscaux, des législations de complaisance, il s'agissait de faire plaisir à une caste puissante. en lui aménageant quelques échappatoires qui lui permettaient d'une part d'être compétitif et d'autre part de soutenir le parti, puis je ne sais trop quoi, puis le parti au sens aussi de Gramsci, du parti idéologique, là, pas seulement le parti politique au pouvoir d'une manière instituée, mais l'espèce de caste qui est bien contente d'être aux affaires pour se donner des avantages. Quoi. C'est un peu ça qu'ils font aussi. Bon, les paradis fiscaux étaient des espèces de trous dans la loi, des parts d'ombre, des points aveugles, des échappatoires pour permettre cela. Mais jamais au point où aujourd'hui une PME peut créer sa filiale dans un paradis fiscal, lui céder les droits de propriété de sa propre marque et se payer à elle-même des droits d'utilisation de sa propre marque en envoyant ses profits, ses revenus dans le paradis fiscal en question, de façon à ne pas payer d'impôts alors qu'il s'agit d'une entreprise qui est toute petite, quoi. Donc on a entre guillemets démocratisé, mais évidemment c'est humoristique, là, mais le recours aux paradis fiscaux, de telle sorte qu'aujourd'hui les États se rendent bien compte que c'est l'hémorragie. Et avec la crise financière, avec l'ampleur que prennent ces décisions qui se déroulent offshore, on se rend compte que tôt ou tard, l'État sera nettement ridicule. Du point de vue, au point où, et puis c'est déjà commencé, je pense, parce que celui que je vous ai pas cité tout à l'heure là, en témoigne. Écoutez, on voit très bien qu'il y a comme une sorte d'impuissance qui s'institutionnalise. Et c'est ce qui s'institutionnalise aujourd'hui, c'est l'aveu d'impuissance. Quoi. C'est responsables politiques vont dire on n'a pas le choix, il faut être réaliste. C'est par rapport à des rapports de force qu'on parle, et dont on parle de rapports de force non pas entre acteurs étatiques, mais entre des acteurs étatiques d'une part et d'autre part des acteurs privés ultra puissants qui ont établi effectivement un rapport de force.
Vous n'avez pas répondu à ma question.
Je pense que.
De principales puissances du monde, eux, ils sont quand même.
C'est-à-dire que l'OCDE, par exemple, va aménager un plan cadre qui va faire en sorte que telle ou telle ou telle opération soit rendue presque impossible dans tel secteur d'activité, ce qui va effectivement endiguer le phénomène, mais on ne s'attaquera pas de front au grand capital. Donc effectivement, ce qu'on fait, c'est qu'on endigue le problème pour lui permettre de perdurer, mais sur le mode pondéré dont je parlais tout à l'heure, et pas par rapport à l'ampleur qu'il a acquis. C'est la même chose. Mais ce sont toujours des mesures qui sont proposées, mais que doivent ensuite entériner les États, donner accès à l'information, effectivement. Et quand on regarde à l'échelle de l'Union européenne, ce qui se fait, c'est encourageant, parce qu'ici, on a une échelle qu'on n'a pas chez nous. L'Union européenne, on peut toujours parler de cette échelle-là. Parce que quand on regarde ce qui a été décidé entre la Suisse et le Luxembourg, notamment, essentiellement, ça a été de taxer une masse de capitaux qui transite des États à fiscalité responsable, disons, aux paradis fiscaux, chez les particuliers, de façon à permettre à ces États-là de maintenir le secret bancaire. Autrement dit, dans la lutte des classes qui a cours entre acteurs ayant accès aux paradis fiscaux, les prolétaires, que sont les détenteurs de fortune de la classe moyenne aisée qui placent leur pécule dans les paradis fiscaux, se sont trouvés à payer pour permettre le maintien du secret bancaire qui profite aux multinationales. Donc, au fond, les taux se resserrent pour le moment, surtout sur les petits joueurs et pas sur les grands acteurs qui financent les partis politiques de toute façon et qui n'accepteraient pas qu'on joue à ce point contre eux.
Oui, madame, tout au fond.
Toujours sur les questions de rapport de force, est-ce que vous pourriez nous parler de la situation au Canada? Est-ce qu'on parle des paradis fiscaux dans l'opinion publique? Et aussi, est-ce que vous avez des exemples dans les paradis fiscaux, peut-être d'endroits où ça a reculé parce que les populations se battent pour retrouver un...
Chez nous, en fait, l'opinion publique n'est pas aussi au fait du problème qu'ici, mais il y a des grandes avancées. C'est très stimulant de ce point de vue-là. J'en dirai pas tellement plus parce que j'entrerai ensuite dans des polémiques qui ne sont pas nécessairement intéressantes là, ici. Et en ce qui concerne les paradis fiscaux qui reculent, je dirais, mais c'est sur la base d'une concurrence entre paradis fiscaux. Là. Tout à l'heure, je disais, c'est un peu comme les boutiques, là, mais les boutiques, parfois, elles partagent ce genre d'expertise. Je pense qu'on est en train d'avoir raison de la Suisse, par exemple, mais au profit des Caïmans, au profit de paradis fiscaux plus proches des États-Unis et du Delaware, je dirais, tout simplement. Mais c'est pas parce qu'un paradis fiscal recule que le phénomène recule. Et c'est là où je serais prudent dans les appréciations.
Bonjour. reviendrai un peu au débat idéologique. Je crois que ce ne sera pas aussi simple de dire, de montrer du doigt l'influence des paradis fiscaux sur la santé, etc. Parce que comme pour le libéralisme, le libre-échange, il y a toujours l'argument de dire que c'est parce qu'on n'est pas allé assez loin qu'il y a eu la crise de 2008, etc. Si on était allé plus loin, qu'il n'y avait pas ces mauvais régulateurs qui nous empêchent de faire business et tout. Et je pense que pour les paradis fiscaux, et vous l'avez dit vous-même, c'est l'image du vrai capitalisme sans frein. Et c'est le capitalisme sans frein, c'est celui qui va apporter la richesse au monde, la richesse à tout le monde. Hein. Donc si, au contraire, on faisait que des paradis fiscaux partout, on aurait le bonheur sur Terre. Non. Vous voyez ce que je veux dire, hein, comme le libre-échange apportera le bonheur sur Terre, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Parce que, et là, on s'attaque aux utilisateurs, aux petits utilisateurs, aux particuliers qui vont placer un peu d'argent en Suisse et tout, mais les multinationales, elles ne pourraient plus travailler si on supprimait du jour au lendemain les paradis fiscaux. La France, il a son siège aux Pays-Bas, caritatif. Les autres, les laboratoires américains, ils essayent de mettre la main sur les laboratoires en Irlande, les laboratoires pharmaceutiques en Irlande et en Angleterre, parce qu'il y a les brevets à ce moment-là qui sont plus taxés, etc., etc. Donc, moi je dis, attention, le problème n'est pas si simple. Idéologiquement, on peut nous dire, s'il n'y a plus d'État à la limite, plus de législation contraignante et tout, mais le capitalisme prendrait partout et apporterait le bonheur à tout le monde. Bon, ouais, je n'ai pas dit que j'étais d'accord avec ça, mais qu'est-ce qu'on répond à ça?
Mais j'ai l'impression, je fais des conférences sur les paradis fiscaux depuis 1999, et je vois évoluer l'opinion, disons, à ma humble mesure, à mon humble mesure, à certains égards, et je vois qu'il y a des choses qui demeurent stables, d'une forme d'indignation qui remonte même à 1789 ou à la Révolution américaine. C'est-à-dire qu'il y a des révolutions qui ont été faites sur la base de révoltes fiscales. La question fiscale, elle est soit très technique ou soit très populaire. C'est curieux. Hein. C'est une question très abstraite ou très sanguine. Bon, on passe loin du tout au tout dans l'histoire. Et vraiment, par rapport aux arguties sur le libre-échange et ainsi de suite, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui passent moins en ce qui concerne les paradis fiscaux, qui passent vraiment moins. Quand on dit aux gens que Google a payé 2,4% d'impôts, puis qu'ils ont casé 10 milliards de dollars aux Bermudes, ça choque tellement qu'il y a des parlementaires britanniques, des capitalistes jusqu'au bout des ongles, qui convoquent les représentants de Google, d'Amazon, de Starbucks, devant eux, pour dire comment c'est sûr que vous n'avez payé aucun impôt chez nous. Jusqu'à entendre le responsable de Starbucks dire on n'a pas fait d'argent en Grande-Bretagne. Ils ont des façons de compter pour ne pas faire d'argent. Et ça choque même le parlementaire conservateur. Quoi. Et ce qui me fascine aujourd'hui quand on suit un petit peu les publications d'essais, c'est de voir à quel point les ouvrages les plus virulents sur le capitalisme sont écrits par des capitalistes, par des gens de droite comme Marc Roche, comme... je suis un peu fatigué, là, je suis... le fait du décalage horaire dans ma mémoire, mais je penserais à quelqu'un comme Raymond aux États-Unis, on peut même mettre Stiglitz dans le lot, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on a les essais les plus virulents sur le capitalisme avec des titres comme le capitalisme hors la loi, le capitalisme qui perd la tête, l'argent fou, des choses comme ça. C'est écrit par des gens qui croient au modèle et disent il y a des voyous qui le pervertissent, notre belle machine qui est censée apporter la croissance à tous, là. Parce que bon, d'une part, il y a un problème, je pense, du point de vue de l'opinion, tout le monde ne suit pas cette espèce de mirage, cette espèce de mythe. L'autre chose, c'est que c'est l'occasion pour nous, en guillemets, ceux qui ont à cœur le bien commun, disons, à un titre ou à un autre, de faire valoir le fait qu'un investisseur sans institutions publiques ne fait rien. Un investisseur qui arrive à Paris aujourd'hui, il a accès à des aéroports, à un système routier, à un système de santé, à des universités qui forment sa main-d'œuvre, je veux dire, à un filet social qui garantit la paix sociale, à un territoire aménagé, je veux dire, à toutes sortes de dispositions publiques qui lui sont absolument nécessaires, et sans elles, il n'est rien. C'est-à-dire, le même investisseur, si on le met à Port-au-Prince, il ne sait plus quoi faire parce qu'il n'y a pas tout ça. Bon, et ce que je veux dire, c'est qu'on peut... Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a dissocié l'impôt de ce qui le rend possible. Et c'est notre travail à nous de rendre l'impôt, au fond, désirable. Au fond, comprendre que c'est une cagnotte qui nous permet d'avoir plus que si on distribuait les billes à tout le monde et qu'on nous disait d'agir sur la base sauvage, quoi. Et on voit bien, effectivement, à quel point Boeing, General Electric dont on parlait, ici on pourrait parler d'Areva, on sait, ce sont des sociétés assistées. Et sans l'État, elles seraient rien. Bon. Et du moment qu'on a rappelé ça, cet argument-là sur l'impôt, tout ce qu'on comprend, c'est qu'actuellement, par exemple, chez nous, chiffre de l'industrie minière, là, les employés des sociétés minières paient 3 fois plus d'impôts que les sociétés minières elles-mêmes. Bon, la logique, qu'est-ce que c'est d'amener les employés, les détenteurs d'emplois qui sont créés, entre guillemets, grâce à ces créateurs d'emplois, de payer des impôts qui sont nécessaires au développement d'infrastructures dont profitent les investisseurs. Et ça, on peut le rappeler. Là, on avancera. Mais c'est un combat, c'est sûr que c'est un combat politique. Mais on peut le rappeler avec à l'appui le fait que, bon, les gens comprennent que si c'est pas les gros qui payent, c'est eux. Et ils payent de 3 manières. Il y a 3 façons de payer, ou 4 même. Mais la première façon, je vais vite, là, mais c'est la fuite des capitaux, hein, l'hémorragie. Deuxièmement, c'est le dumping, c'est qu'on impose moins le capital parce que sinon il va fuir. Donc celui qui reste, on l'impose moins, donc ça fait moins de rentrées. Troisième, c'est évidemment la dette, c'est qu'on emprunte à des instances qu'on n'impose plus. Hein? Donc là, on est rendu dans une spirale infernale. Là. Et le quatrième, c'est la perte de services publics. C'est une perte aussi. Là. C'est ce à quoi on avait droit avant, il n'y a plus droit. Donc du coup, on l'a perdu aussi sur ce plan-là. Donc, on perd à tous égards. Et ça, c'est des choses qui se mesurent. Et ben, en fait, j'aimerais que ça se mesure. C'est vrai que quand on regarde les résultats électoraux dans ce pays, on se rend compte que l'équation n'est pas faite, mais les éléments sont réunis pour y arriver.
Bonsoir, merci beaucoup d'abord. Et je voulais poser une question peut-être un peu cynique pour revenir sur la question des institutions et de la paix sociale. Est-ce que vous ne pensez pas que justement, si on parle de pantouflage, on a quand même Christine Lagarde au FMI et ça doit se vérifier dans à peu près toutes les institutions qui ne sont jamais internationales, qui ne sont jamais que des excroissances des États avec leur relative nouvelle incompétence de fait reconnue revendiquer. Donc est-ce que vous ne pensez pas que justement ces institutions sont l'arbre qui permet de cacher la forêt, qui cache la montagne et qui permettent de faire croire qu'ils sont en train d'essayer de travailler sur des points de détail en nous disant on est en train de lutter sur les paradis fiscaux, contre les paradis fiscaux, pour entretenir la paix sociale et pour que ceux qui payent encore des impôts, c'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas les moyens de les mettre ailleurs ou alors... qui ne sont pas conscients de l'importance que ça a, pour que ces gens-là continuent à payer quand on leur a dit que bon, dormez bien, braves gens, on s'occupe de tout.
Ouais, ce qui me rassure, moi, d'une certaine façon, c'est qu'encore une fois que les paradis fiscaux, comme tels, sont inavouables. On va dire non, le Delaware, c'est pas tout à fait un paradis fiscal, c'est une sorte d'état administratif qui est bon là. On va dire non, le Luxembourg, c'est un paradis bancaire, un paradis fiscal, c'est un paradis qui vise à faire. Bon, on va toujours trouver des euphémismes avec effectivement par ailleurs des acteurs de premier plan comme Lagarde ou Cameron ou Sarkozy à l'époque, qui vont y aller de déclaration choc pour. Purifier le modèle pour qu'il fonctionne bien, quoi. Bon, et au fond, ce qui est intéressant, c'est que c'est inavouable. Et je pense que le piège actuellement, ce serait de tomber dans des anecdotes de type un grand acteur russe, Gérard Depardieu, qui dit bon, ça, c'est une anecdote trompeuse. Parce que là, on s'intéresse à une personnalité qui fait quelque chose, finalement, d'assez anecdotique par rapport au système qui permet des entreprises de profiter du bien commun en s'assurant que ce soit la classe moyenne qui le finance, hein, grâce à une inscription dans des régimes politiques qui sont rendus légaux par des États complaisants, qui sont à la fois les États de complaisance et les États traditionnels qui rendent possible cette transition. Quoi. C'est un travail politique qui reste à faire. Mais moi, j'ai confiance en une chose, c'est que les gens comprennent le phénomène des paradis fiscaux d'une manière large. Et j'en tiens pour preuve, c'est un élément sur lequel je me suis amusé, disons, dans quelques pages dans mon livre précédent, Offshore, là. Savoir que les premiers acteurs ayant accès à la parole publique qui ont parlé des paradis fiscaux dans leur dimension contemporaine, moderne, ce sont les réalisateurs de Hollywood, étonnamment, et les romanciers de gare. Font du roman à gare américain, hein, les thrillers, les romans noirs, le roman d'espionnage, ou les BDistes belges. Ce ne sont pas des genres prestigieux. Hein? Et souvent, même si on parle d'Hollywood, ce sont des réalisateurs et des producteurs qui ont pratiquement un mépris affiché pour leur public. Mais pourquoi dans les bandes dessinées, dans les romans de gare, puis dans les films hollywoodiens, on parle des Bermudes, de la Suisse, du Luxembourg, des Bahamas, des Caïmans? C'est par souci de vraisemblance. C'est tout simplement parce que le public ne croirait pas qu'un tel est un politicien corrompu, qu'un tel est un baron de la drogue, qu'un tel est un marchand d'armes, qu'un tel est je ne sais quoi, s'il n'a pas accès à des comptes à numéros. Si on monte un personnage qui se balade avec des valises pleines de liasses de billets de banque pourris, on ne le croira pas. Tout simplement parce que dans l'esprit des gens, être puissant, c'est avoir accès aux paradis fiscaux, même si on n'y comprend rien par ailleurs. Mais ce qui m'a intéressé, moi, c'est de voir à quel point dans le spectre de mauvais films, là, je vous les conseille absolument pas, mais le spectre de mauvais films, très souvent, mais il y en a des bons aussi, mais essentiellement souvent mauvais, ou des bandes dessinées quelconques et de romans de gare marrants, mais sans plus, au fond, on couvre à peu près tous les problèmes. Transfert de fonds, malversation, corruption politique, trafic de la drogue, trafic d'armes, financement de la prostitution, trafic d'espèces protégées, trafic de matières dangereuses, quoi encore, les minières, les pétrolières, les fusions d'entreprises illicites, tout y passe. Et on nous montre des banques. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un effort pour nous montrer tellement Obama, c'est-à-dire le trafic d'influence dans les procès, ainsi, tout y est. Et en fait, ce qu'on comprend, c'est que le public comprend, mais il ne faut pas compter sur Hollywood pour politiser l'affaire. Maintenant, il faut partir de là, comprendre que moi, je dirais, les gens comprennent, mais ils ne comprennent pas qu'ils comprennent. Quoi. Et donc, il faut faire comprendre qu'on comprend. Mais c'est plus facile déjà que de partir à zéro.
Frédéric. Est-ce qu'il y a une compétition entre les paradis fiscaux? Est-ce qu'ils sont créés ou que tout est tellement gros que tout le monde peut travailler tranquille dans son coin? Ou est-ce qu'il y en a qui meurent et d'autres qui naissent?
Mais c'est que les paradis fiscaux, la différence entre un paradis... Le paradis fiscal, c'est le contraire d'un État impérialiste. Et le paradis fiscal, il est coupable de passivité. Et finalement, ça ne coûte pas cher que là, un paradis fiscal. Au fond, pour une élite corrompue, c'est de s'assurer qu'on touche un peu un pécule, un passant, en aménageant sa législation de façon à ce que ce soit ultra permissif. Mais en fait, les paradis fiscaux, c'est même plus des États. À la fin, ce sont des socles étatiques font réduits à leur plus simple expression qui permettent à des acteurs financiers et industriels d'être souverains. C'est-à-dire de vivre dans un État qui correspond à leur fantasme. Oui, je suis aux États-Unis, oui, je suis en Espagne, oui, je suis au Japon, mais je peux créer des filiales qui vont me permettre d'opérer dans des États où la loi s'abolit. Elle s'évanouit. Il n'y a plus de loi. Et tout d'un coup, je peux, depuis mes filières, faire exactement ce que je veux, tout en ayant pignon sur rue, au Texas, dire au Québec, en Bourgogne, ou je ne sais trop où, au Japon. Quoi. Mais je peux continuer à avoir une sorte d'existence formelle là où je suis effectivement présent et actif, où j'ai ma clientèle, où j'ai mes employés, où j'ai mon savoir-faire, mais je peux, au fond, grâce à des abstractions que seuls les juristes peuvent imaginer, hein, qui sont... c'est de la folie transformée en raison, là, souvent. Là. On crée de la légalité pour abstraire ce qui se passe et pour le recomposer ailleurs, là où tout devient, toutes les entraves disparaissent. Quoi. Et donc, le chef d'État ou le conseil des ministres des îles Vierges britanniques, il a peu à faire pour satisfaire ces acteurs-là qui ont besoin de plusieurs points d'appui de façon à rendre très très complexe leur montage et aussi à pouvoir agir sur différents plans, que ce soit le travail, le transport maritime, le droit de propriété, l'investissement, en rendant très très complexe la machine. de façon à ce que personne ne comprenne. Très souvent, les journalistes me disent « Bon, racontez-nous techniquement comment ça marche. » Mais premièrement, si on racontait vraiment techniquement comment ça marche, ça endormirait tout le monde, parce qu'on ne veut pas le savoir techniquement tellement c'est compliqué. Et puis d'autre part, je doute qu'une seule personne comprenne tellement c'est devenu ramifié. Mais il y a certainement des faits de concurrence, mais ce sont des entités qui disparaissent en même temps. Donc, j'imagine pas d'une manière très très prégnante là, les Caïmans et les Bahamas se livrer une concurrence parce qu'ils font juste réduire à zéro leurs exigences. Donc, une fois qu'on a réduit à zéro ses exigences, il n'y a plus grand chose qu'on peut faire. Puis, très souvent, les chefs d'État se font récompenser de plein de manières par ceux qui bénéficient de leur nouvel aménagement législatif.
Jean-François. D'apporter quelques précisions à l'éclairage de la division Nord-Sud.
C'était sur la base de... par rapport à quelle question?
Je ne sais plus, vous avez dit, je vous en dirai.
Oui, c'est ça, il y avait...
C'est page 4.
Non, c'était, oui, non. C'était sur, effectivement, sur les traités de non-double imposition. La justification des traités de non-double imposition quand on est dans un axe nord-nord, c'est de faire en sorte qu'un capital ne soit pas taxé deux fois. Ce qui justifie les traités de non-double imposition dans un axe nord-sud, c'est de faire en sorte, si le traité est bien appliqué, ce qui n'arrive jamais, parce qu'avec les paradis fiscaux, on transforme tout, on se sert des termes de l'économie réelle comme de paravent, mais si les choses s'appliquaient comme telles, c'est qu'on s'assurerait que les capitaux sont imposés là où ils ont été actifs. C'est, admettons qu'une société minière crée... en Guinée, un pôle d'exploitation et qu'elle investit un certain capital dans ce pôle-là. Ben, l'idée des accords de non-double imposition, c'est de faire en sorte qu'on s'assure que là où il y a eu des opérations, il y ait une imposition. Mais c'est sur la base d'un principe qui fait aujourd'hui rire tout le monde, mais qui existait il y a quelques décennies entre fiscalistes un peu idéalistes, qui était celui de la neutralité fiscale. Hein. Puis le principe de la neutralité fiscale, c'est d'espérer que les opérations soient à peu près imposées de la même manière où qu'elles aient lieu. On n'en est pas là.
Avec les paradis fiscaux, quel est le besoin de traités comme TAFTA, ALENA?
Ben, comme je disais tout à l'heure, j'avoue que les choses évoluent très vite. Les États traditionnels se rendent compte que ça va trop loin. Les États traditionnels se rendent compte qu'il est très facile de pratiquer le prix de transfert, c'est-à-dire ce que je décrivais tout à l'heure, cette façon de céder à une filiale des biens pour se facturer à soi-même des services et des droits factices, de façon à transférer le plus de fonds possible à les paradis fiscaux. On se rend compte que c'est trop facile. Là. C'est un phénomène trop ample et évidemment... je dirais, pour résumer ma pensée, c'est une façon d'expliquer un peu où se situe le débat, c'est qu'on est face à une souveraineté réfractée. C'est-à-dire que, d'une part, il y a des acteurs privés qui sont devenus souverains. Les paradis fiscaux peuvent faire ce qu'ils veulent, je le disais tout à l'heure, mener des opérations, signer des contrats, pratiquer le trafic d'armes, corrompre, transporter de la marchandise, la traiter dans des zones franches là où il n'y a aucune loi sur le travail. On peut faire tout ce qu'on veut, puis après ça, on vend sur les marchés ce qu'on a produit sur ce mode, finalement, para-légal, quoi, si on veut. Mais les États continuent d'avoir des prérogatives. Et d'avoir en leur sein, c'est complexe un État, là, avoir en leur sein des gens qui croient en l'État, même à droite. Hein, il y a la droite sociale là, qui souhaite encadrer le capital, quoi. Donc, des acteurs qui vont souhaiter effectivement serrer les taux, couper le robinet, faire en sorte que ça aille moins loin. On commence par évidemment s'attaquer aux plus faibles, mais on commence par ça, les PME, les détenteurs, les particuliers, ainsi de suite, à faire en sorte aussi que... mais sans pour autant s'attaquer aux problèmes comme tel, qui m'apparaît être de l'hémorragie fiscale générée par les multinationales. Quoi. Donc, il y a une volonté, mais dans une absurdité qui est celle de l'État. Et je pense encore que cette expression de Pierre Bourdieu est très parlante. La main gauche et la main droite de l'État montrent bien que l'État est subit une lobotomie qui a mal tourné, je ne sais trop quoi, mais il y a quelque chose de pas coordonné entre ces deux mains-là, quoi. Bon, donc il y a quelque chose qui est à l'œuvre là, d'une part, quoi, qui témoigne d'une confusion, là, mais qui en même temps témoigne d'un pouvoir réel que peuvent encore avoir les institutions publiques avec un minimum de volonté, sans pour autant régler le problème. Je pense que le problème ne sera pas réglé. Et le troisième type de souveraineté, c'est la souveraineté du peuple. Et ça aussi, c'est une souveraineté qui compte. C'est le gros animal dont parlait Platon. Là. C'est-à-dire cette capacité qu'on a de râler, de casser, de rugir, de faire peur. Et de faire en sorte, effectivement, que cette volonté-là, par elle-même, influence le jeu. Et la quatrième souveraineté que j'ajouterais, qui est plus spéculative, puis s'il y en a qui décrochent, c'est pas grave, mais c'est celle dont parlait plutôt Georges Bataille, qui est une sorte de chimie historique entre les trois premières. Quoi. C'est une façon de dire qu'au fond, la souveraineté, qu'est-ce que c'est? C'est la façon dont les choses s'agencent sans qu'on sache vraiment comment elles le font. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de certitude sur la façon dont l'histoire évoluera, par exemple. Au fond, c'est toujours un rapport de force entre des acteurs institués au nom du... de la chose commune, des acteurs privés au nom de leurs intérêts propres et des espèces d'acteurs publics un peu brouillons qui ne sont jamais tout à fait compatibles avec le modèle formel là, qui pèsent sur le cours historique des choses et au fond ce rapport-là lui-même est souverain dans le sens où on ne sait pas trop dans l'histoire comment les choses évoluent et comment, pourquoi elles évoluent dans un sens ou un autre et cette espèce de souveraineté historique-là est ce qui fait que la vie mérite d'être vécue d'une certaine manière, c'est-à-dire que d'une certaine manière c'est ce qui fait qu'on a, tout est imprévisible quand même quoi. Et c'est pour ça qu'il y a une raison de militer quoi. Il y a encore une raison de croire, il y a encore une raison de continuer parce qu'on ne sait pas comment les choses vont évoluer, on ne le sait jamais, comme disait Jacques Derrida, l'avenir est ce que l'on voit venir et qu'on ne voit pas venir. C'est ça qui se joue là, entre ces souverainetés là. Et c'est pour ça qu'il y a des États aujourd'hui qui ont en leur sein des membres qui essaient d'endiguer le problème tandis que d'autres membres veulent au contraire comme vous le disiez tout à l'heure là, laisser le capital jouir sans entrave.
Vous avez dit que Cuba avait refusé le système en 1959 et que la Jamaïque avait essayé de s'en sortir en conséquence elle avait été massacrée si j'ai bien compris et qu'en conséquence elle avait été massacrée ouais. Pourquoi Haïti n'est pas devenu un paradis fiscal et s'il était devenu un paradis fiscal est-ce que la reconstruction de Port-au-Prince n'y avait pas plus vite que... avec les méthodes caritative, on va dire.
Ben, je vais répondre par le bout le plus court parce que ça serait Haïti, ça serait non seulement une conférence mais tout un séminaire en soi. Là. Il reste que Haïti, dans la région de Caracol, a une zone franche. À Caracol, a une zone franche et se développe sur ce mode-là. Et on a découvert du pétrole en Haïti. Et on sait qu'il y a des minerais. Et je ne sais pas si c'est pas cette, la raison qui fait qu'on a maintenu Haïti dans la position qui est la sienne dans l'histoire. Mais il reste qu'une des façons qu'ont eu les dirigeants ou ceux qui leur soufflent des idées de, entre guillemets, développer la partie de l'île qui leur revient, c'est de développer une zone franche dans le nord qui met à mal un des derniers écosystèmes qui vaillent. Avec le risque à côté qu'une société canadienne, Majescor, exploite une mine d'or à ciel ouvert, absolument dévastateur et polluant. Et ces deux projets-là combinés risquent de motiver la création au nord d'un port en eau profonde qui mettra à mal aussi l'écosystème marin, qui est lui aussi très riche. Donc c'est vers ça qu'on s'oriente là aussi, mais... Bon, les zones franches sont le paradis fiscal du travail, si on veut. Là. Et donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est de saccager le bout que le Duvalier père avait épargné hein, au nom du développement.
Oui, dans la rubrique « Que peut-on faire ?», je montrais du doigt les multinationales qui abusent et voir faire des campagnes de boycott. Que ça ne pouvait pas marcher, au moins dans les pays anglo-saxons qui ont une certaine habitude de ce genre d'action. Alors c'est difficile de boycotter Google, etc., Air France ou autre, mais de les montrer du doigt, parce que je pense que quand on a vu dans les journaux que Google Watt avait échappé à 2-3 milliards d'impôts en France, bon, ça marque quand même. Et si ça, s'il y avait des campagnes là-dessus, par certaines presses ou certains médias, et en proposant des boycotts ou des actions similaires, qu'est-ce que vous en pensez?
Ben moi, je dirais tout à fait oui, et je dirais en plus, faisons n'importe quoi, mais faisons quelque chose. La question, qu'est-ce qu'on peut faire, m'agace un peu. Moi, je préfère la question, on fait quoi?
Oui.
Et on fait quoi? Et dans le sens aussi, ce que je présenterais comme étant en politique le pari pascalien. Blaise Pascal disait, bon, on ne sait pas si Dieu existe, mais si on fait comme s'il existait, et qu'au moment du jugement dernier, on se rend compte que tout ce temps-là, il a existé, bon, on constaterait qu'on a bien fait de faire comme s'il existait. Ben, c'est la même chose pour le grand soir. On ne sait pas s'il existe, on est sûr que ce n'est pas le cas. Mais si on fait comme si, il y a plus de chances qu'on arrive à quelque chose que si on reste chez soi à manger de la pizza congelée en regardant TF1. Quoi. Et l'idée, c'est de faire n'importe quoi. Et de se dire que, ben, en agissant, puis en voyant comment n'importe quoi, ça ne veut pas dire n'importe comment, mais n'importe quoi, ça veut dire d'agir. Et de voir.
Sur Amazon, par exemple.
Et de cesser d'acheter des livres sur Amazon. Puis, et puis de coordonner des initiatives qui sont certes symboliques. Moi, j'aimais bien la phrase de François-Xavier Verchard qui disait qu'au fond, les avancées politiques se mesurent au nombre d'échecs. Là. C'est-à-dire qu'à force de faire des tracts qui finissent dans le caniveau, puis des livres qui passent au pilon, puis des manifs qui ne servent à rien, puis des journaux qui tombent lettres mortes à leur troisième numéro, puis des grèves qui sont matées, puis etc. Ben, à un moment donné, le pouvoir encaisse néanmoins, beaucoup plus que si on reste silencieux. Et c'est vraiment à force d'initiatives qui se fracassent évidemment sur les récifs du conservatisme et du pouvoir établi, qu'on arrive quand même à faire bouger les choses. Et même si on n'en voit pas tout de suite le résultat, il y a des liens d'amitié qui se tissent, il y a un éveil intellectuel et moral qui se manifeste à l'évidence, et c'est vers ça qu'on peut s'inviter à elle.
Finalement, ceux qui ont voté pour Marine Le Pen, il faut bouger les choses.
Ouais. Mais disons, faire bouger les choses, c'est aussi sur un plan intellectuel, et là on y est. Non, pas.
Ils sont obligés, les politiques, à se bouger un peu. Oui,
tout à fait.
Parce qu'ici, la branche sur laquelle ils sont assis, elle se voit.
Oui.
C'est pour faire de la surenchère.
Mais on a laissé au Front National la nation, on a laissé la souveraineté, etc. Tous ces thèmes-là, on les a abandonnés. Et ce n'est absolument pas des thèmes d'extrême droite. La nation, la souveraineté nationale, la souveraineté populaire, c'est des choses qui ne faut absolument pas toucher, qu'on doit reprendre. Voilà. Et on peut revenir sur ce qu'on a perdu. Ça, on peut revenir. On peut renationaliser ce qu'on a privatisé, par exemple. Tout cela, c'est ça qu'il faut faire en réalité.
Bon, Alain, merci beaucoup. Que Alain vient directement du Québec, donc il doit y avoir un petit peu effectivement de décalage horaire. Merci.